I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Bienvenue au Jardin de Parole sur Radio Grand Ciel. Le Jardin de Parole, une émission de Michel Géroux. Aujourd'hui, nous recevons Michaël Boyer, professeur d'histoire. Nous enregistrons aujourd'hui 6 juin. Chers auditeurs, bien sûr, il ne sera plus le 6 juin quand vous nous entendrez. Mais cette date résonne déjà en vous. Le 6 juin. Michaël nous lit le discours du 6 juin 1944. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais pour les plus jeunes, pour les collégiens, Michaël, peux-tu évoquer le contexte ?
Bien sûr. Le 6 juin 1944, c'est le jour du débarquement. C'est le début de la libération non seulement de la France, mais c'est le point de départ aussi vers la reconquête de l'Europe sur l'Allemagne nazie. Alors, Charles de Gaulle est le chef de la France libre à cette époque-là, et il est le chef, finalement, du gouvernement français, du gouvernement provisoire de la République française. C'est lui qui prend en charge donc la partie française de l'opération, qui n'est pas très importante. Hein. Le contingent français lors du débarquement des Alliés est très, très peu représenté. Mais il est là symboliquement. Également, il faut bien comprendre que le débarquement allié, c'est surtout des contingents américains, britanniques, canadiens. On verra peut-être plus tard que les alliances étaient très importantes et les relations entre alliés. Et Charles de Gaulle, eh bien, avec ses alliés, n'était pas tout à fait en osmose, en bonne relation. Ce discours, pourquoi je vous ai proposé d'en parler aujourd'hui, c'est un discours mobilisateur. Véritablement, de Gaulle est là pour mobiliser, appeler les Français de l'intérieur à lutter contre l'armée allemande. C'est un discours, alors, quoi qu'on peut penser de Charles de Gaulle, hein, sur le plan politique ou sur l'homme en lui-même, mais c'est un homme qui sait manier les mots, qui maîtrise parfaitement la langue française, et c'est ce qui fait ce discours si élégant, finalement. Il veut donner des instructions à ses partisans. Tous les fils de France sont appelés sous les drapeaux. Tous doivent participer à l'effort de guerre contre les Allemands, à leur risque et péril, bien entendu. Hein. On est dans un contexte d'occupation. Les Allemands sont capables de mener des atrocités. Et on le verra plus tard au cours des mois, des semaines qui vont suivre. Les Allemands seront capables de particulièrement faire des atrocités terribles sur la population, notamment.
Je propose qu'on écoute le discours.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France, et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe, à l'ouest, fut arrêtée naguère la marée de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. L'ennemi va tout faire pour échapper à son destin. Il va s'acharner à tenir notre sol aussi longtemps que possible. Mais il y a beau temps, déjà, qu'il n'est plus qu'un fauve qui recule, de Stalingrad à Tarnopol, des bords du Nil à Piserte, de Tunis à Rome. Il a pris, maintenant, l'habitude de la défaite. Cette bataille, la France va la mener avec fureur. Elle va la mener en bon ordre. C'est ainsi que nous avons, depuis 1500 ans, gagné chacune de nos victoires. C'est ainsi que nous gagnerons celle-là en bon ordre. Pour nos armées de terre, de mer, de l'air, il n'y a point là de problème. Jamais elles ne furent plus ardentes, plus habiles, plus disciplinées. L'Afrique, l'Italie, l'océan et le ciel ont vu leur force et leur gloire renaissante. La terre natale les verra demain pour la nation qui se bat, les pieds et les poings liés contre l'oppresseur, armés jusqu'aux dents. Le bon ordre dans la bataille exige plusieurs conditions. La première est que les consignes données par le gouvernement français et par les chefs français, qu'il a qualifiés pour le faire à l'échelon national et à l'échelon local, soient exactement suivies. La seconde est que l'action menée par nous sur les arrières de l'ennemi soit conjuguée aussi étroitement que possible avec celle que mènent de front les armées alliées et françaises. Or, tout le monde doit prévoir que l'action des armées sera dure et sera longue. C'est dire que l'action des forces de la résistance doit durer pour aller s'amplifiant jusqu'au moment de la déroute allemande. La troisième condition est que tous ceux qui sont capables d'agir soit par les armes, soit par les destructions, soit par leur renseignement, soit par le refus du travail utile à l'ennemi, ne se laissent pas faire prisonniers. Que tout cela se dérobe d'avance à la clôture ou à la déportation. Quelles que soient les difficultés, tout vaut mieux que d'être mis hors de combat sans combattre. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur.
Pourrais-tu revenir, Michael, sur les relations entre De Gaulle et les Alliés ?
Eh bien, en fait, dans ce discours, si vous avez bien remarqué, De Gaulle, il ne parle pas vraiment beaucoup de ses Alliés. Et en fait, il les évoque très très peu. C'est comme si, en fait, le débarquement était une opération strictement française. On parle très peu des Alliés. Pour quelle raison ? C'est parce que les relations diplomatiques entre De Gaulle et les principaux chefs de la coalition sont très froides, en fait, à ce moment-là, en 1944. Avec Churchill, les relations ont toujours été très compliquées. Roosevelt, le président Roosevelt, voyait en De Gaulle, eh bien, une sorte de futur, peut-être, dictateur militaire, quelqu'un de très autoritaire. Il ne lui faisait pas vraiment confiance. Les Américains ne faisaient vraiment pas confiance à Charles de Gaulle. C'est quelqu'un qui sortait de l'ombre. De Gaulle, c'était un inconnu, il n'était qu'un sous-secrétaire d'État en 1940. Un sous-secrétaire d'État d'ailleurs, très éphémère. Donc avec Roosevelt, c'était très compliqué. Avec Churchill, ça a été différent. Ils se connaissent depuis les dures journées de mai et de juin 1940. Cela les a rapprochés. Ils ont un rapport avec l'histoire qui est très, très important. Et Churchill est quelqu'un de francophile, de francophone. Alors le français de Churchill, hein, c'est un français très, très churchillien, j'ai envie de dire. Mais il parle français, alors que De Gaulle, lui, est plutôt anglophobe. Mais ils l'apprécient. Ils s'apprécient tous les deux jusqu'à un certain point. Il y a eu une crise en 1942 quand les Américains et les Anglais débarquent en Afrique du Nord pour reprendre le contrôle des colonies françaises. Il y a eu une crise à ce moment-là parce que De Gaulle considérait que les Anglais essayaient en fait de prendre l'avantage sur... c'est une rivalité coloniale, hein, toujours, qui subsiste. Il y a eu une forte crise à ce moment-là. Hein, et Churchill s'en est été un peu déçu. Je vous lis une phrase, hein, une petite réflexion de Churchill à ce moment-là. Ils viennent de se disputer tous les deux. De Gaulle s'en va et Churchill se tourne vers son conseiller et lui explique... Son pays a abandonné la lutte. Lui-même n'est qu'un réfugié. Et si nous lui retirons notre appui, c'est un homme fini. Eh bien, regardez-le. Non, mais regardez-le. On croirait Staline avec 200 divisions derrière lui. Ça vous montre à quel point De Gaulle, malgré le fait que son armée, enfin, il n'avait quasiment pas d'armée, il ne représentait rien ou quasiment rien, eh bien, il avait cette particularité de s'imposer, de toujours faire le difficile, d'être toujours... hautain envers ses alliés, finalement. Mais, ceci dit, Churchill appréciait et respectait profondément De Gaulle. Et la réciproque était vraie.
Dans le discours que tu nous as lu, on entend cette phrase « L'ennemi va tout faire pour échapper à son destin ». Est-ce que tu pourrais faire un commentaire sur cette phrase ?
Alors, bien se rappeler tout d'abord que pendant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets se sont développés et étaient particulièrement à l'affût de tout type d'informations. La France libre, malgré sa petitesse, son manque de moyens, avait des services de renseignement qui fonctionnaient. Bien sûr, les services de renseignement les plus sophistiqués étaient aux mains des Britanniques et des Américains. Et je pense que tous les chefs alliés, tous les responsables alliés avaient des doutes, avaient des informations, des renseignements qui permettaient de penser que les Allemands allaient résister le plus longtemps possible et le plus possible. On ne doit pas oublier que de l'autre côté, sur le front Est, malgré la disproportion des forces entre Allemands et Soviétiques, les Soviétiques étant largement plus nombreux que les Allemands, eh bien, la tactique d'Adolf Hitler a toujours été de maintenir le front, ne pas reculer, ne pas faire de retraite. Et les Alliés, sans doute, imaginaient avec raison que les Allemands allaient faire pareil sur le front Ouest. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'ennemi dont parle Charles de Gaulle, il va tout faire. Et il va faire des choses particulièrement atroces, des massacres de populations dirigées contre les phénomènes de résistance qui vont se développer un peu partout dans le pays. C'est comme ça que nous avons eu, malheureusement, le massacre d'Oradour-sur-Glane, par exemple. Mais il y en a eu d'autres.
Oui, il y en a eu d'autres,
notamment à Tulle, je me souviens. Tulle, notamment, a eu son lot de victimes.
Merci, Michael, pour cette lecture du discours de Gaulle du 6 juin. Merci de nous avoir remis en mémoire ce discours.
C'est un discours qu'il a failli ne pas prononcer parce que, justement, Anglais et Américains n'avaient pas très envie qu'il le prononce.
Heureusement, nous l'avons. Et de nouveau, grâce à toi. À bientôt pour une nouvelle saison du Jardin de Parole. Merci, chers auditeurs, de votre écoute attentive, de votre fidélité à Radio Grand Ciel.
Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.